Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Connaissez-vous Franck Sinisi? Cet élu Front National de la commune de Fontaine dans le département de l'Isère mériterait pourtant qu'on s'intéresse à lui. Le 27 février dernier, il suggérait l'idée suivante en plein conseil municipal à propos des Roms. Pour les loger, dit-il, il peut y avoir un autofinancement, il suffit de leur payer des dentistes. Je m'explique, c'est toujours lui qui parle. Oui, leur payer des dentistes, c'est-à-dire de leur mettre des dents en nickel, de récupérer leurs dents en or. Juste ça, ça leur permet de se nourrir et de se loger. Fin de citation. Alors, l'enregistrement de cette séquence est disponible sur le site de la mairie de Fontaine. On y entend l'élu municipal visiblement très content de sa bonne blague. C'était de l'humour, mais de l'humour de mauvais goût, a commenté quelques jours plus tard le secrétaire général du FN. Une procédure disciplinaire est en cours. Dans un autre registre, À bras ouverts, sorti au cinéma la semaine dernière, illustre l'absence de retenue dans l'usage des clichés, des caricatures à l'égard de cette communauté. Le film raconte l'histoire d'une famille rome accueillie par un intellectuel prétendument humaniste. Et c'est le journal Le Parisien qui signe la critique la plus explicite de ce long métrage sous forme d'onomatopée, Burke. Suite à cet article, une radio périphérique se demandait dimanche si la critique cinématographique pouvait tout se permettre. On serait plutôt tenté de leur suggérer cette autre question. Peut-on tout se permettre à propos des Roms? Romaphobie, un racisme décomplexé? C'est la question que nous allons poser ce soir à quatre invités, à commencer par vous, Manon Fillonneau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée générale du collectif national Droits de l'Homme Roms Europe et vous avez publié en février dernier 20 propositions pour une politique d'inclusion des habitants des bidonvilles et des squats, étant entendu que tous les Roms ne vivent pas dans des bidonvilles, que tous les habitants des bidonvilles ne sont pas des Roms, mais qu'ils en forment une grande partie. Pour discuter avec vous, Nona Mayer, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes membre de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a rendu, il y a quelques jours de cela, c'était fin mars, son rapport annuel sur le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Rapport dans lequel il est signalé que l'hostilité est toujours très forte à l'égard des Roms, même si elle est en baisse depuis 2 ans. On aura l'occasion d'y revenir. Notre troisième invitée est au téléphone. Elle est en Italie. Il s'agit d'Anina Ciuccio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la porte-parole de l'association La Voix des Roms, qui est une association qui a été créée en 2005 et qui vise à la reconnaissance de l'identité du peuple rom. Et puis quatrième invité, lui non plus n'est pas dans nos studios à Paris, mais dans des studios de France Bleu à Tours, ceux de France Bleu Touraine, Grégoire Cousin, bonsoir.
Bonsoir.
Attaché de recherche à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, vous travaillez au sein du programme européen de recherche Migrom sur la circulation des Roms roumains. Alors avant de... Enfin non pas avant de commencer, mais je voudrais plutôt commencer cette émission au sujet de ce qui nous a donné envie, le prétexte qui nous a donné envie de faire cette émission ce soir, la sortie du film À bras ouverts, qui est un film dénoncé comme un concentré de clichés racistes à l'égard des Roms. Anina Ciuccio, je crois que c'est un film que vous avez vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Oui, alors ce film, véritablement déjà moi et de nombreuses personnes que nous sommes censés être représentés par ce film, on l'a vu, on a été blessés. Certaines même sont sorties les larmes aux yeux de la salle en voyant ce film, parce que tout simplement c'est un film qui rit avec les clichés les plus racistes. On est présenté comme des animaux, on est sale, on est bestiaux, on est sauvage, et c'est un film qui se moque évidemment de la personne qui est censée être un antiraciste, un humaniste antiraciste. Donc pour moi c'est clairement un film raciste, rabaissant, humiliant, et c'est quand même, je trouve c'est incroyable que les personnes qui l'ont réalisé ne se sont pas rendues compte de tout ça. Et voilà, véritablement, je pense que c'est un film qui est intolérable, tout simplement.
Voilà, qui est sorti donc il y a une semaine, qui pour l'instant a quand même un certain nombre de téléspectateurs, de spectateurs, pardon, à plus de 400 000 entrées pour ce film que vous avez vu également, Manon Fillonneau. L'organisation que vous représentez, CNDH Roms Europe, a publié un communiqué après justement avoir vu ce film. Vous y parlez notamment d'un miroir du traitement particulier dont les Roms sont l'objet en France.
Oui, en effet, ce film est raciste, mais en tout cas, il montre aussi l'ambiance en général raciste envers les Roms en France. Aujourd'hui, ça a des conséquences directes sur les personnes. De simples refus de guichet pour ouvrir des droits à la scolarisation, à la santé, à des envois de cocktails Molotov sur des bidonvilles où habitent des personnes qui sont Roms ou perçues comme Roms et détestées pour cela. Donc les conséquences sont graves, directes et vraiment inquiétantes.
Le miroir du traitement particulier dont les Roms sont l'objet en France, Nona Mayer, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a une forme de spécificité dans le racisme à l'égard des Roms en France?
Il est lié aux autres formes de racisme, hein, parce que les préjugés sont corrélés entre eux, c'est-à-dire il y a des personnes qui rejettent tous les autres. Mais c'est vrai qu'on a, on travaille sur des opinions, pas sur des comportements, avec le sondage annuel de la CNCDH, et on a des questions qui permettent de faire une échelle, enfin, des attitudes anti-Roms. Et on constate que comparé aux autres minorités, ce sont eux qui ont le niveau d'acceptation le plus faible. Pour vous donner une idée, cet indice d'acceptation de l'autre, il est en moyenne à 65 cette année. Pour la minorité juive, il s'établit à 81%. Pour les musulmans, on est à 63%. Pour les Roms, on est à 41%.
Donc, et pourtant, très loin derrière,
quand même. Oui, très très loin derrière. Autrement dit, dans la hiérarchie des rejets, ce sont eux qui sont tout en bas. Et pourtant, peut-être pour apporter une lueur d'espoir, depuis 2013, l'acceptation va croissant. Donc ce n'est pas inéluctable.
On sachant peut faire que jusqu'en 2013, ça avait beaucoup baissé justement.
Absolument.
L'acceptation.
On est passé de 27 à 41.
Alors Grégoire Cousin, je ne sais pas si vous avez vu ce film à bras ouverts, mais plus généralement, est-ce que vous diriez qu'il y a peut-être des choses qu'on se permet aujourd'hui, soit dans les actes, soit dans les propos, qu'on ne se permettrait pas à l'égard d'autres communautés, que ce sont peut-être d'ailleurs des fois des propos dont ceux qui les profèrent ne se rendent pas forcément compte que ce sont des propos racistes?
Alors j'ai pas eu la chance de voir le film malheureusement. Sur le fait que c'est un racisme particulier, oui, je pense que c'est un des racismes qui est très ancré dans l'histoire européenne, qui correspond à des stéréotypes qui remontent à très très loin et qui sont réactivés par la culture européenne et qui n'ont jamais fait l'objet d'une déconstruction, contrairement à l'antisémitisme, qui est l'autre racisme ancré dans l'histoire européenne. Et donc là, on voit ressortir un vieux substrat européen dans une réactivation dans des films contemporains.
Tout à l'heure, je crois que c'est Anina Chouchou nous disait que l'équipe du film s'était même pas rendu compte qu'il faisait un film raciste. Grégoire Cousin, est-ce que ça pourrait aussi participer justement de cette spécificité du racisme anti-Rome que de ne pas être finalement conscientisé de la même manière que d'autres formes de racisme?
Alors, on avait fait une étude il y a un an avec l'Université de Vérone, une étude de psychologie sociale sur le racisme anti-Rome. On se rendait compte que, contrairement à d'autres formes de racisme, c'est un racisme avec une très très grande ambivalence. Je m'explique. Ça veut dire que si vous prenez sur les stéréotypes, les gens vont être capables de vous dire des horreurs absolues et en même temps des choses assez positives. Là où, sur d'autres formes de racisme, vous avez moins d'ambivalence, où les gens ont des stéréotypes positifs ou négatifs, ou n'ont pas de stéréotypes. Et ça s'explique, ça peut expliquer que les auteurs du film n'ont pas forcément rendu compte à quel point ils portaient des stéréotypes négatifs qui réactivaient un racisme profond, puisque c'est pris dans cette ambivalence-là, si ça correspond, hein, parce que une fois de plus, je l'ai pas vu. Ils sont sales, ils sont voleurs, ils sont méchants, et en même temps, ils sont libres et ils portent une forme de joie, etc. Et c'est cette ambivalence-là et la forme du racisme anti-Rome depuis très longtemps, de ce qui est décrit comme l'anti-tsiganisme européen.
Alors, il faut d'ailleurs préciser que l'équipe du film se défend d'avoir voulu rire contre les personnages et évidemment, a fortiori, d'avoir fait un film raciste. Il n'y a pas aucune raison de ne pas les croire, en tout cas sur l'intention, même si le résultat est différent. Anina Chouchou, vous disiez, quand vous l'avez vu avec d'autres personnes, vous étiez totalement effondrée de voir cette image-là. En même temps, cette image-là, vous ne la découvriez pas, j'imagine. Qu'est-ce qui a accentué peut-être le fait que vous en sortiez à ce point atterré? C'est de la voir sur grand écran et de voir qu'on en faisait une œuvre de cinéma grand public?
Oui, oui, effectivement, c'est pas les préjugés sur les Roms, je les découvre pas, je les ai vécus depuis mon enfance et c'est pas quelque chose de nouveau, mais à ce point-là, c'est quand même assez dramatique. Dans le film, le niveau d'humiliation est tel qu'on peut pas en sortir sans rien ressentir. Comme je vous le disais, certains d'entre nous nous sommes sortis les larmes aux yeux, parce que on se demande si réellement c'est l'image qu'a de nous la France. Et je peux vous dire qu'il y avait aussi des personnes avec leurs enfants, on n'a pas laissé ces enfants voir ce film parce que l'image est tellement dégradante et qu'on veut pas que ces enfants aient cette image dégradante d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il faut le savoir, justement, à cause de ces préjugés, du racisme si profond et ancré, les Roms eux-mêmes, nous eux-mêmes, on a une image rabaissée de nous-mêmes, humiliée, et ça provoque la résignation, et c'est aussi à l'origine des drames et de la situation que vivent les Roms partout en Europe, parce qu'ils sont... Et surtout en ce qui concerne l'école, par exemple. Donc, moi, c'est surtout pour ça que ce film me révolte. C'est qu'on donne cette image rabaissante, humiliante et vraiment, comme je disais, presque bestiale hein, de nous. Et pour en finir, moi, ça me fait penser au film au Juif Sous, que vous connaissez sans doute, qui a été réalisé à la demande de la propagande nazie et qui a préparé la conscience collective aux horreurs qui ont suivi, que nous connaissons tous durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment un film comparable. Je pense que qu'aujourd'hui on doit passer à autre chose justement, et que j'espère que ce film n'aura pas le succès escompté, parce qu'il ne le mérite pas et c'est vraiment pas une œuvre d'art. Et c'était vraiment un humour facile et grossier. Et aujourd'hui, au lieu de parler de l'école et de l'accès à l'école qui est interdit à des milliers d'enfants en France, on les rabaisse encore plus par ce genre de navet.
Alors en matière d'humour facile et grossier, même davantage, j'évoquais au début de l'émission cette autre affaire un petit peu plus ancienne, mais enfin pas tant que ça, au mois de février, dans ce conseiller municipal FN dans une commune de l'Isère qui, pour régler la question des Roms, disait il faudrait leur enlever leurs dents en or, et puis comme ça participerait à leur logement et à financer leur nourriture. C'est pas le premier élu hein, d'ailleurs à avoir des propos qui sont plus que limites. En 2013, il y en avait eu deux autres. Il y en avait un qui avait expliqué, c'était un élu de l'UDI à l'époque, qui avait expliqué que Hitler n'en avait peut-être pas tué assez en parlant des Roms, et puis un autre après l'incendie d'un campement qui avait considéré que les secours étaient peut-être arrivés un petit peu trop vite pour éteindre cet incendie. Est-ce que c'est un racisme non-améliaire qui est moins sévèrement puni que d'autres formes de racisme aujourd'hui en France?
Si vous regardez du côté des élus et des candidats du FN, je veux dire, ils ciblent un peu toutes les minorités. Hein, donc de ce côté-là, non, ce n'est pas vraiment une exception. Mais on constate que ce soit du côté des élus ou du côté des gens ordinaires, on trouve effectivement que la parole se lâche beaucoup plus quand il s'agit des Roms. Pour la CNCDH, il y avait eu une enquête qualitative par entretien en profondeur sur l'état du racisme, les minorités en 2013. Et on était assez effarés de voir ce que certaines personnes, évidemment pas la majorité, mais ce que certaines personnes osaient dire des Roms. C'était un déni d'humanité. C'était de la bestialité, c'était des choses que je n'avais jamais entendues à l'égard d'aucun autre groupe. Donc il y a effectivement quelque chose à propos des Roms.
Manon Fillonneau ?
Oui, tout à fait, mais ça peut atteindre des sphères très très violentes. Je pense aujourd'hui qu'il n'y a encore pas suffisamment de condamnations d'élus à l'échelle la plus haute du pouvoir. Hein. Les propos de Manuel Valls, d'ailleurs la Voix des Roms l'a poursuivi pour ses propos sur les Roms quand il disait que les Roms ont des modes de vie très très différents.
Voilà, c'était en septembre 2013. Il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. C'est illusoire de penser qu'on règle le problème des populations roms à travers uniquement l'insertion.
Exactement.
Et puis je cite pas tout, mais enfin bon,
ouais,
c'était dans ce registre.
Mais voilà, il y a peu de condamnations, il y a aussi peu de plaintes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans une certaine désillusion quand la justice ne s'applique pas sur la scolarisation de leurs enfants parce que des mères refusent de les scolariser, sur leur droit au logement, sur tous les autres droits. Faire valoir ses droits quant à des propos haineux, c'est finalement peut-être pas la première priorité, malheureusement.
Grégoire Cousin.
Oui, en fait, il y a un anti-tsiganisme démocratique et administratif qui est très ancien. On peut aussi aller chercher Giraud de Langlade, qui est condamné à quelques années pour des propos anti-tsigan, mais ça a plus de 10 ans. Enfin, ça revient de manière très régulière. Et là, il y a une histoire aussi qu'on peut écrire de ça. Et c'est lié
que vous feriez remonter jusqu'où d'ailleurs ? Est-ce que vous la feriez remonter jusqu'au début de la présence des Roms en Europe ? C'est-à-dire, si j'ai bien lu ma documentation, au début du XVe siècle, ou si c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit, Grégoire Cousin ?
En termes politiques, je pense qu'en Europe occidentale, ça date du début du XXe siècle. C'est beaucoup plus ancien en Europe de l'Est. Non, je voulais juste rebondir sur un truc par rapport aux condamnations des hommes politiques de Oran. C'est que si l'enquête de CNCDH montrait des niveaux d'intolérance très élevés en 2013, c'est parce qu'en 2013, on avait une focalisation politique extrêmement forte contre les Roms, avec au moment où les Roms sont devenus un point de positionnement politique. C'est-à-dire que vous avez Valls qui était contre les Roms, qui était contre Leonardo, Duflo qui était pour les Roms, qui était pour Leonardo, et tout le monde, en fait, ne parlait plus de Roms, parlait de son propre positionnement dans le gouvernement. Et ça a des effets totalement délétères sur l'antitsiganisme.
Nana Maillard.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est important, c'est le débat public. C'est la manière dont on parle des minorités qui comptent. L'exemple vient d'en haut. Quand la classe politique a des propos racistes, antisémites, anti-Roms, cela donne l'exemple. Donc, c'est très grave. Donc, c'est extrêmement important de se mobiliser contre ces propos. Et on parlait d'ambivalence tout à l'heure. Mais pour la plupart des stéréotypes, il y a ambivalence. On a les deux. Et en fonction, justement, du débat public, de la manière dont les autorités, les élites vont cadrer les choses, ça va cristalliser dans un sens ou dans l'autre.
Sur la question des plaintes qui peuvent être portées lorsqu'il y a des propos racistes, alors en l'occurrence là à l'égard de la communauté rom, Anina Chouchou, est-ce que vous, à travers votre association, la voix des Roms, c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place ? Est-ce que c'est, et si oui, est-ce que c'est quelque chose de compliqué pour faire aboutir ces plaintes ?
Oui, effectivement, comme Manon l'a évoqué tout à l'heure, nous, on a porté plainte pour les propos racistes qui ont été prononcés par M. Manuel Valls lorsqu'il était Premier ministre. Et jusqu'à ce jour, cette plainte n'a pas pu aboutir puisqu'elle bénéficie d'une immunité du fait de son statut. Donc, et c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul qui a prononcé des propos extrêmement choquants, blessants et racistes. Et qui n'a à ce jour pas pu être jugé comme tous les autres justiciables. Mais en dehors des propos haineux racistes, moi ce qui m'inquiète beaucoup plus en réalité, c'est une forme de discrimination et de racisme structurel. Et là je parle surtout des refus scolaires injustifiés et arbitraires que se voient opposer aujourd'hui en France des milliers et des milliers d'enfants.
Alors, est-ce que cette discrimination-là... Pardonnez-moi, Anina Chouchou. Est-ce que cette discrimination-là, alors je sais pas quel âge vous avez, mais je crois que vous avez moins de 30 ans, mais est-ce que c'est quelque chose que vous, par exemple, étant enfant, vous avez connu? Ou bien est-ce que vous avez eu l'impression que cette discrimination, elle évoluait au fil du temps?
Je l'ai vécu en Italie, puisque j'ai vécu dans un bidonville à Rome, et pendant 6 mois, nous avons eu accès à aucun droit fondamental. Nous n'étions même pas considérés comme des êtres humains. Nous avons, évidemment, pendant ces mois, mes sœurs et moi, nous n'avons pas pu aller à l'école. Mes parents n'ont pas pu avoir accès à un travail. Nous n'avons pas eu accès à un médecin pendant des mois et des mois. Et en France, ça a été aussi la même situation lorsque nous sommes arrivés et avant de pouvoir avoir un titre de séjour, c'est pareil, nous n'avons pas pu accéder à l'école, nous n'avons pas eu de logement, nous avons vécu dans des conditions extrêmement précaires, difficiles.
Sachant que vous veniez de Roumanie, hein, c'est ça ?
Pardon ?
Vous veniez de Roumanie ?
En France, Oui, ma famille et moi, nous venions de Roumanie parce que là encore, on a été victime d'une discrimination. Mes parents ont perdu leur emploi. Mon père était comptable, ma mère infirmière. Du fait simplement d'être victime d'une discrimination raciale et à cause de ça, voilà, nous avons été obligés de quitter notre pays pour pouvoir avoir accès à une vie digne, tout simplement. Mais ici aussi, on a été victime de racisme, de discrimination, de rejet. Et aujourd'hui encore, dans mon association, effectivement, comme vous l'évoquiez, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire ce que l'accès, que ces personnes qui se trouvent dans une extrême précarité aient accès à des droits qui leur sont garantis par la loi, par la Constitution française, et qui malheureusement continuent de leur être refusés de façon totalement arbitraire et injustifiée, notamment le droit à la scolarisation, le droit à la santé, le droit au logement. Et c'est effectivement très difficile de lutter contre ça. C'est très difficile de lutter contre ça, donc de lutter contre des refus de mères d'inscrire des enfants à l'école, totalement injustifié, alors que le droit, la Constitution et les engagements internationaux de la France sont de notre côté. On n'arrive quand même pas à lutter contre ça, même si le défenseur des droits intervient en notre faveur, et ça reste toujours difficile. Et donc, effectivement, moi, je pense à ce jour que les discriminations et le racisme, en général, et particulièrement envers les Roms, puisqu'ils se trouvent dans une situation d'extrême précarité, de faiblesse, n'est pas réprimée. Et on a, par exemple, un exemple aussi récent, l'affaire Garner, pour laquelle la France a été condamnée en 2014 parce qu'un jeune homme a été tué par les forces de l'ordre et une enquête sérieuse n'a pas été effectuée sur cet homicide. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme et à ce jour, il y a eu relax quand même de cet homme qui a été mis en examen. Donc, on peut quand même émettre des doutes sur la répression des actes racistes.
Manon Fiono, déléguée générale, je le rappelle, du collectif national Droits de l'Homme Rome Europe. J'ai beaucoup lu en préparant l'émission qu'il y avait, s'il y a eu en tout cas un tournant, disons, un effet d'accélération des discriminations à l'égard des Roms. On pouvait peut-être le dater de la chute du mur de Berlin et de l'ouverture des frontières qui a fait aussi que des populations romaines, bulgares et donc des populations roms sont arrivées de manière plus importante en Europe occidentale. Est-ce qu'on peut dater peut-être aussi de cette accélération des clichés racistes autour de cette population?
Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dès la chute du mur, il y a des Roms qui étaient déjà présents en France, mais en tout cas de Roumanie et de Bulgarie qui sont arrivés en France et qui ont commencé à vivre dans un habitat très précaire qui est le bidonville, qui n'est pas une chose nouvelle en France, mais il faut le reconnaître, ils existent à nouveau après les bidonvilles qu'on a pu résorber dans les années 70. Donc à peu près 15 à 20 000 personnes, c'est le chiffre qu'on avance pour décrire le nombre de personnes qui vivent en bidonville et dans des grands squats et qui sont originaires d'Europe de l'Est. Une majorité d'entre eux est Rome, mais ils ne se définissent pas tous comme Rome, et ils ne le sont pas tous.
Des personnes qui n'ont pas de travail, enfin en tout cas qui ont du mal à avoir un travail, souvent.
Oui, alors, enfin, des personnes qui ont eu pendant longtemps du mal à avoir un travail salarié, puisque la France a dit à la Roumanie et à la Bulgarie, bienvenue, vous êtes dans l'Union européenne. Par contre, il va falloir attendre 7 ans avant d'avoir le droit d'accéder au marché du travail classique.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on pense Rome, on pense bidonville, on pense mendicité, on pense vol à la tire. Voilà, enfin, ça fait partie de toutes ces images, de tous ces clichés qui reviennent. Et voilà, et on essentialise une population qui est quand même plus diverse que ce que l'on en retient.
Complètement. Mais nous, à Rome Europe, dans le collectif, on travaille principalement, c'est un collectif d'associations avec des grandes associations nationales qui sont membres et aussi des plus petits collectifs locaux de citoyens mobilisés autour d'un bidonville. Et on travaille justement sur cette partie des plus précaires et donc des plus visibles dans l'espace public, en situation de mendicité pour certains, qui est une activité génératrice de revenus qui n'est pas satisfaisante. Et Anina le dit dans son livre, c'est c'est une situation qui peut être humiliante pour des personnes qui la vivent. Voilà, la mendicité, la question de la délinquance petite ou grande, c'est une question qui est très concentrée sur Paris et sur un groupe de mineurs qui oscille entre 100 et 200 mineurs. Donc on n'est pas du tout ni sur une invasion, ni sur un problème insolvable. Mais voilà, c'est quelque chose de mineur parmi un nombre de personnes, de 15 à 20 000 personnes, qui lui-même, à l'échelle de la France, n'est pas si gros. Donc on est en train on a monté un problème politique et une question rome qui n'a pas lieu d'être, puisqu'en fait, il s'agit de personnes précaires qui vivent en squat et en bidonville et pour lesquelles tous les outils de lutte contre la pauvreté fonctionnent comme pour tous les autres publics.
Ce que dit le rapport de la CNCDH, Nona Maillard, seule une petite minorité des Roms vit dans une très grande précarité dans des bidonvilles. Les autres ne sont pas visibles et ne vivent pas dans des conditions de misère extrême. Il y a la question de l'invisibilité peut-être d'autres Roms, disons, que ceux que l'on... comment dire, que l'on visualise.
Absolument, le problème c'est qu'il y a, on prend ce groupe, on l'essentialise comme s'ils étaient tous pauvres, vivant de vol et de trafic. Je veux dire, les chiffres sont quand même étonnants. On a 52% des personnes interrogées qui pensent qu'ils vivent de vol et de trafic, 70% qui sont plutôt nomades, 65% qui exploitent des enfants. C'est ridicule. Donc en fait, la chose importante c'est de véhiculer les contre-stéréotypes, de prendre en compte la diversité de cette population, les cas d'ascension sociale, tout ce qu'il y a positif. Autrement dit, il est important d'avoir face à des films comme celui dont on parlait tout à l'heure, des contre-films qui montrent la diversité de cette population, les cas de réussite, de montée dans l'échelle sociale, les arts, la culture. Je veux dire, il faut vraiment équilibrer l'image. Donc le rôle des médias est très important.
Grégoire Cousin.
Sur l'équilibre de l'image, moi ça me fait penser au film que je trouve excellent pour le coup, Aphérim. Qui est un film sur l'esclavage des Roms en Roumanie. Et ce qui me permet de rebondir sur l'idée que il y a quand même une grande différence entre l'Est et l'Ouest de l'Europe en termes d'anti-tsiganisme. L'Ouest est fondé sur l'idée d'une exclusion des populations de tziganes. Et l'Est est fondé sur l'idée de l'exploitation des populations roms. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un esclavage en Roumanie. Et ça, ces idées-là de l'anti-tziganisme continuent à être en bascule lorsque les gens migrent de l'Est à l'Ouest. C'est-à-dire qu'ils passent d'une situation d'anti-tziganisme d'exploitation. Il suffit de regarder la situation du travail dans les coopératives roumaines, etc., sous le communisme, pour voir qu'il y avait très clairement une discrimination d'exploitation. Et quand ils arrivent en France, ils sont dans une discrimination d'exclusion. Et là, on n'est pas exactement sur le même schéma, ce qui peut-être explique pourquoi les gens ont du mal à savoir sur quel pied danser par rapport à cette volonté de rejet très fort, qu'ils ont connu en Roumanie, mais pas sous la même forme.
Est-ce qu'il peut les faire en sorte quoi qu'ils soient un peu démunis parce qu'ils n'ont pas justement les réactions ou les codes appropriés pour réagir à ces nouvelles situations? C'est ça que vous nous dites, Grégoire Cousin?
Je pense que dans un premier temps, et là quand on parle de ce genre de choses, les temps sont longs, hein, c'est 10-20 ans. Oui, il y a eu une forme d'incapacité à répondre politiquement à ça et qu'on voit seulement apparaître depuis quelques années un discours qui est plus construit, je trouve, de la part des associations roms en réponse à au racisme structurel.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nina Chouchou?
Oui, effectivement, moi je pense que l'une des solutions pour lutter contre le racisme contre les Roms, c'est effectivement de donner la parole aux premiers concernés eux-mêmes. Et là, je pense aussi qu'il y a un rôle à jouer de la part des associations non-roms qui travaillent pour ou avec les Roms. En fait, on doit travailler en bonne intelligence de façon à ce que ces dernières apportent leur soutien à la lutte menée par les Roms eux-mêmes, à leur initiative, parce que c'est extrêmement important de donner la parole à ceux qui sont au premier plan, les premiers concernés par ça, qui sont la cible même de cet antiracisme. Et c'est la seule solution pour qu'il y ait un réel changement, puisqu'on l'a vu depuis 30 ans au moins, il y a des politiques d'intégration, il y a des choses qui sont faites pour l'intégration des Roms par les non-Roms principalement et rien n'a changé à ce jour. Rien n'a changé et rien ne s'est amélioré. Et je pense que le changement ne peut venir que si nous-mêmes, nous sommes acteurs acteur de notre vie, de notre destin et de notre image et de notre représentation. Et là, effectivement, les alliés peuvent nous aider à le faire, mais ne doivent pas le faire à notre place et ne doivent pas parler à notre place. Et c'est extrêmement important. Et on l'a fait d'ailleurs avec le film, justement dont nous parlions au début. Nous avons donné la parole à des jeunes, des bidonvilles, notamment Edera ou Spartacus Ursu, un jeune acteur peut-être que vous connaissez peut-être, puisqu'il a joué dans le film Spartacus et Cassandra.
Voilà, qui était un documentaire.
Ils ont pu s'exprimer sur ce film, et justement, ça a donné une vérité extrêmement forte, et leur avis sur ce film, je pense, a changé l'opinion, en tout cas, je l'espère, de la majorité sur ce film.
Vous disiez, il n'y a rien avant, c'est quand même quelques petits progrès qui sont notés, toujours dans ce rapport récent de la CNCDH, d'Anna Mayer, où il est dit que dans les villes, le progrès de la scolarisation des enfants en provenance des bidonvilles a permis de déconstruire le préjugé selon lequel les Roms ne sont pas intégrables, puisque c'est quand même finalement, s'il y a un préjugé qui semble dominer l'ensemble des autres préjugés à l'égard des Roms, c'est bien celui-là, c'est-à-dire des populations qu'on ne peut pas intégrer, comme le disait l'ex-ministre de l'Intérieur Manuel Valls, et qu'il convient donc de renvoyer dans leur pays d'origine.
Oui, mais c'est pas encore tout à fait gagné. Il y a encore des maires qui sont très réticents à inscrire les Roms à l'école, donc il faut d'abord faire respecter la loi, c'est-à-dire faire respecter l'égal accès au logement, à la culture, à l'école, aux soins, ça c'est un premier préalable. Ensuite, bien sûr, il faut se mobiliser et c'est là que le rôle des associations de tout poil et des associations antiracistes, mais plus largement, toutes les associations qui localement font travailler ensemble toutes les bonnes volontés et puis bien sûr, il y a l'école. Je veux dire, changer l'image qu'on a des minorités dans leur ensemble, des Roms en particulier, et je pensais à quelque chose qui est important, revenir sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Très peu de gens savent aujourd'hui qu'il y a eu un plan d'extermination des Roms. Et donc, ça, la mémoire de cet épisode commence à revenir. Ça aussi, c'est une autre manière de regarder ce groupe dans sa diversité, avec son histoire, sa culture et sa diversité.
Alors maintenant, Grégoire Cousin voudrait intervenir. Ensuite, je reviens vers Manon Fillonneau. Grégoire Cousin.
Oui, je voulais juste rebondir sur le dernier point. Je pense qu'il faut faire attention de la mise en avant de l'histoire tragique, en fait, dans la reconstruction des représentations. Je suis d'accord avec Anina, c'est aux Roms eux-mêmes de dire ce qu'ils ont à vouloir donner comme représentation d'eux-mêmes. Mais si j'avais un conseil à leur donner, c'est de ne pas tout miser sur l'histoire tragique, bien que l'histoire européenne des Roms soit tragique.
Eh ben, je vais poser la question justement à Nina Chouchou. Est-ce que vous considérez qu'on connaît suffisamment l'histoire des Roms en Europe? En Europe occidentale, et que voilà, une meilleure connaissance peut-être de l'ensemble de la population à travers l'école de ce qu'a été la tragédie des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale permettrait de modifier leur statut aujourd'hui. Anina Chouchou.
Oui, alors effectivement, moi je pense que connaître mieux l'histoire des Roms, et non seulement l'histoire tragique et dramatique qu'il y a eu sous la Seconde Guerre mondiale, mais en général, connaître l'apport des Roms, de la culture rome, dans chaque pays, en tant que citoyen, ce qu'ils ont apporté à ce pays, à la culture, à l'art, et simplement leur rapport en tant que citoyen dans chaque État et en tant que pleinement citoyen de cet État est extrêmement important, puisque rappelons-le quand même, ce qu'il y a de tragique dans d'autres communautés partout en Europe, même si elle est très diverse, elle est extrêmement diverse, indéfiniment diverse, elle est liée par un point commun qui est le fait que peu importe où l'on naisse, en tant que Rome, on n'est jamais considéré pleinement comme un citoyen à part entière. On est toujours considéré comme un étranger dans son propre pays. Et c'est extrêmement difficile dès lors de pouvoir de partir sur un pied d'égalité, de pouvoir avoir accès à tous les droits et de pouvoir tout simplement vivre dignement dans son pays même.
Justement, sur la question de l'accès aux droits, je reviens vers Manon Fillonneau, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment, pardonnez-moi Anina Chouchou, sur cette question de l'accès aux droits. Donc, le collectif Rome Europe a publié en février 20 propositions pour une politique d'inclusion des habitants des bidonvilles et squats. Quel est le droit? Alors, il y avait la proposition, on les a mises en ligne sur notre site, mais la proposition, en tout cas l'accès aux droits, qui vous paraît le plus fondamental? Est-ce que c'est d'abord le logement? Est-ce que c'est d'abord de se dire il faut peut-être aussi que ces populations aient à un moment donné une forme de stabilité pour qu'on puisse derrière leur proposer justement un certain nombre de choses en faveur d'une meilleure insertion dans la société?
Alors en fait, oui, effectivement, à Rome Europe, on pense que la stabilité est la clé, la stabilité du lieu de vie, parce qu'en fait, à partir du moment où les personnes auront un lieu de vie stable, on n'aura pas forcément besoin de proposer à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait en mesure de trouver du travail par eux-mêmes, d'ailleurs qu'en ont déjà, qui vivent en bidonville et qui sont en intérim, en CDD, en CDI. Le problème, c'est les expulsions de squats et de bidonville à répétition. Ça l'était déjà sous Sarkozy, sous la présidence Hollande, ça a très peu évolué, voire ça s'est empiré selon certaines années. Le nombre d'expulsions de bidonville est absolument catastrophique. On oscille entre 11 000 à 18 000 personnes, ce qui est à peu près le nombre de personnes qui vivent en bidonville. Le problème principal, c'est que sans cette stabilité, on ne peut rien construire. En fait, c'est les expulsions à répétition qui pérennisent les bidonvilles. Aujourd'hui, 20 000 personnes qui vivent en bidonville, dans les années 50-60, on était plutôt proche de 100 000. C'est pas du tout insolvable. Et il y a des communes qui commencent à le comprendre à leur échelle, même s'il y a besoin d'une dynamique nationale et d'une dynamique francilienne, puisque l'Île-de-France est un très mauvais exemple et il se passe peu de choses positives en Île-de-France. On a quelques bons exemples qu'on a pu mettre en valeur dans notre rapport, mais on a d'autres villes, voilà, qui arrivent à avoir une organisation un peu plus respectueuse des droits et des choses avancent, des personnes intègrent le logement, trouvent un emploi, des enfants vont à l'école et ça fonctionne.
Anina Chouchou.
Oui, alors Manon vient de le dire et moi, l'ayant vécu, effectivement, je pense que déjà la stabilité et l'accès à un logement, c'est primordial pour pouvoir par la suite avoir un parcours scolaire normal et réussi. Et pour nous, ça a été le cas. Tant qu'on a vécu sous la menace d'une expulsion en bidonville, l'école était impossible. Dès qu'on a pu avoir accès à un logement stable, mes sœurs et moi, nous avons pu aller à l'école, mes parents ont pu chercher un travail. Donc, effectivement, les choses sont quand même liées entre elles. Je pense que on peut pas seulement séparer, par exemple, l'école ou l'emploi, sans pouvoir mener de front les trois ensemble. Donc, l'emploi, l'accès à un logement stable et l'école qui est fondamentale. Mais ce que j'aimerais revenir sur, sur le problème des bidonvilles et de l'intégration, sur un simple point qui a déjà été souligné, c'est que c'est pas du tout un problème culturel et j'en suis la preuve vivante. Je veux dire, personne ne choisit de vivre en bidonville par plaisir. Pour nous, ça a été la pire période de notre vie et on n'avait pas d'autre choix. Et la preuve est que c'est pas quelque chose de culturellement rom, parce que ça nous est assigné et c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. L'habitat en bidonville nous est assigné comme quelque chose de purement culturel, quelque chose qui nous appartient avec cette idée de nomadisme qui nous est intrinsèque et que je dément, puisque c'est pas la réalité. Et on l'a dit, il y a eu plusieurs vagues d'immigration en France et à chaque vague d'immigration, il y a eu des populations qui ont vécu en bidonville. Et ce n'est pas un problème insolvable, puisque quand il y a une volonté politique réelle de résoudre le problème et de faire et de donner accès aux droits fondamentaux aux personnes, ça fonctionne et les bidonvilles sont résorbés. Et moi, je ne suis qu'un seul exemple et il y en a plusieurs. Donc je pense que c'est tout à fait un problème à quel on peut trouver une solution.
Manon Fiano.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Anina, notamment sur cette image romantique et en fait fausse que les Roms roumains et bulgares notamment soient nomades. Aujourd'hui, dans la sémantique qu'on utilise, on parle pour désigner ces lieux de vie de campements et de campements illicites. Nous, on travaille à ce que les personnes parlent de bidonville pour remettre ça dans une réalité historique, sociale, que la France connaît. Les bidonvilles, c'est une question de mal logement. Le campement illicite, c'est une question d'ordre public à résoudre. Mais jusqu'ici, ça fait 25 ans que l'État s'essaye à résoudre ça en expulsant et ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il va falloir résorber les bidonvilles et le mal logement que ça c'est.
En tout cas, on voit que c'est un travail au long cours qui demande que l'ensemble des acteurs participent aussi à justement aller contre ces assignations culturelles qui sont finalement au cœur à chaque fois des différentes formes de racisme.
Bref, il faut se battre sur tous les plans. Je veux dire, au niveau des droits, au niveau du logement, au niveau de la culture. Et surtout, le message de tous ces débats qu'on vient d'avoir, c'est halte au misérabilisme.
Et ben voilà, ce sera le message de fin pour cette émission à laquelle je vous remercie vivement d'avoir participé tous les quatre. Merci Nona Mayer, Grégoire Cousin. J'en profite pour remercier nos camarades de France Bleu Touraine puisque vous étiez dans leurs locaux. Merci Manon Fillonneau et Anina Chouchou. Les différentes liens vers vos associations et vers les ressources, c'est sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Je renvoie également à l'exposition qui est en cours en ce moment au Musée de l'Homme à Paris, Nous et les autres, des préjugés au racisme. C'est donc en ce moment. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richer, Céline Leclerc, Isolde Sicard, Louise Puzo, Antoine Tricot. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Youtou Diego à Clopès. Demain, ce sera le Club des idées du vendredi avec cette question: la laïcité est-elle identitaire? Et ce, dans le cadre d'une journée de France Culture consacrée à l'avenir du modèle républicain.